aux Actes des Apôtres et au chapitre 10. Les Actes des Apôtres et au chapitre 10. Nous sommes encore dans cette série d'études sur des personnages bibliques. Déjà tout à l'heure, on en a mentionné deux. Hein. On a mentionné Job, qui était un homme croyant. Mais ça a quand même pris 42 chapitres pour arriver au point où il a vu les choses autrement. Il a dit, pour passer du stade où oui, je sais que tu existes, j'avais entendu parler de toi, et au stade où maintenant je t'ai vu, je sais comment tu es. Et puis l'autre exemple, c'était Nebuchadnezzar, qui lui était un païen, un roi païen, et ça lui a pris 7 ans pour arriver à retrouver son bon sens et se rendre compte que lui n'était pas la dernière voix et le dernier à se prononcer sur tout. Dieu avait le dernier mot. Et ça lui a pris 7 ans, mais c'est arrivé. Et là, nous voulons voir une autre personne, donc dans Actes chapitre 10, et c'est Corneille. Corneille, ce chapitre 10 est un chapitre clé dans l'histoire de l'Église primitive, mais nous voulons voir surtout c'est le personnage. Et voilà, alors je vais lire quand même les premiers paragraphes, donc les versets 1 à 7 déjà. Donc Actes chapitre 10, verset 1, il dit « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, donc 3 heures de l'après-midi, 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Et dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Voilà, Corneille, c'est de cette manière-là qu'il nous est présenté, il n'y a aucune mention de lui avant. Et c'est uniquement dans ce chapitre qu'on nous parle de Corneille. Juste un peu pour mettre les choses dans le contexte, les Juifs du 1er siècle, ou même avant, hein, eh bien, ils étaient tellement habitués à penser que le seul moyen de faire partie du peuple de Dieu était de naître dans une famille juive, ou bien de se convertir au judaïsme et de devenir juif. Pour eux, c'était le seul moyen de pouvoir faire partie du peuple de Dieu, pour pouvoir adorer Dieu et jouir de ce que Dieu avait. Et c'était ancré dans leur pensée et ils ne pouvaient pas penser autrement. Et donc c'est une manière de percevoir le monde païen. Et donc, ça a affecté les premiers croyants parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer un païen dans l'église de Jésus-Christ sans passer par le judaïsme. Pour eux, si quelqu'un voulait devenir chrétien et être dans l'église de Christ, il fallait d'abord se placer sous la loi de Moïse, mettre en pratique, devenir juif, et ensuite il aurait accès à l'église de Jésus-Christ. C'était un peu la pensée qui était là au début, tellement ils ont pas remis en question la première pensée. Et donc, parce qu'ils avaient cette pensée-là, eh bien, ça pouvait exclure beaucoup de monde de l'église de Christ. Alors le chapitre 10, justement, je disais que c'était un chapitre clé dans l'Église primitive parce que c'est le chapitre qui pour la première fois rend clair le fait qu'on n'est pas obligé de passer par le judaïsme pour entrer dans l'Église de Jésus-Christ, on peut venir directement. Et l'initiative vient de Dieu et non pas des hommes. Et donc Pierre qui avait grandi en Israël, hein, donc il avait cette pensée, il avait réussi à croire que Jésus était le Messie, il avait enfin réussi à croire que Jésus-Christ est réellement ressuscité, et il avait réussi à mettre tout ce que Jésus avait raconté de sa mort, de sa résurrection et de ses intentions. Et tout ça, et grâce à l'Esprit de Dieu qui est descendu à Pentecôte, tout ça s'est mis en place et tout d'un coup, c'était un homme transformé. Mais il y avait encore un petit quelque chose qui lui restait du passé, vous savez, nous tous, même quand on vient au Seigneur, avec toutes nos bonnes intentions, il nous reste des choses, des traces de la vie passée et qu'il faut régler petit à petit, hein, au fur et à mesure qu'elles se révèlent à nous. Et Pierre avait encore cette idée qu'un païen ne pouvait pas recevoir Jésus-Christ. Pourtant, il était rempli du Saint-Esprit, et être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on a tout compris, et que tout ce que je dis est très bien. Être rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il me contrôle, et que je le glorifie. Mais la rééducation, ça prend du temps. Et donc, Pierre, aussi rempli de l'Esprit, baptisé de l'Esprit, rempli de l'Esprit, tout était conforme en toutes choses, mais il y avait encore dans son cœur, il y avait un truc, les païens ne peuvent pas être sauvés. Et c'était un gros problème. Mais dans ce chapitre, eh bien, Pierre va arriver, il va apprendre, il nous dit dans le verset 28, il dit: mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Il dit, mais Dieu m'a appris. Et quand Dieu nous apprend une leçon, eh bien, il faut la garder. Et puis en plus, elle est libératrice. Et vous savez, mais c'est facile de parler de Pierre et de son problème. Mais il est bon de parfois regarder dans son propre cœur et voir si nous, on n'a pas des gens qui sont exclus pour toutes sortes de raisons. De par leurs origines, de par leurs habitudes, de par de l'Église à laquelle ils appartiennent, de la part d'une certaine interprétation qu'ils maintiennent. On pourrait dire, oh ben, ces gens-là, moi, quand j'en vois un, je ne veux plus le parler. Ou de par leur religion, ils sont d'une autre religion, ben non, ces gens-là ne sont pas croyants, on n'a rien à faire avec eux. Et ça arrive, hein, moi je parle de chrétiens, hein, je ne parle pas des gens du monde, hein, je parle des chrétiens qui parfois, ils ont dans leur tête, parce qu'ils ont vécu des choses, parce qu'ils ont grandi dans un certain milieu, et ben il y a des gens qui sont exclus. Et auxquels ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent même pas prier pour eux. Et même des chrétiens, hein, je les ai rencontrés, et qui me l'ont dit, qui me l'ont avoué même. Et on a tous besoin de passer par cette expérience qu'a eue Pierre. Et donc, notre étude ce matin, c'est deux visions d'un même homme, Corneille. Il y a celle de Dieu, puis il y a celle de Pierre. Et bien sûr, vous imaginez qu'à la fin, on va dire, mais c'est celle de Dieu qu'il faut avoir. Hein. Mais bon, la question, c'est qu'il se peut qu'il y ait des sujets, il se peut qu'il y ait des personnes sur lesquelles Dieu a une vision et que Steve, il en a une autre. Et donc, il est important que Steve arrive au point de déjà se rendre compte qu'il en a une autre vision et ensuite de la corriger. Hein, et c'est important, et il y a tout un long chapitre sur ce récit, parce qu'il fallait le traiter, et il fallait que ce soit clair, et il se peut que des fois Dieu, ben, ça prend quelque temps, pour nous apprendre une certaine leçon. Mais lui, il a le temps, hein, et puis il est persévérant. Et donc, on a besoin d'apprendre certaines leçons. D'abord, la vision de Dieu sur cet homme, leur Corneille. C'est sûr que, quand je vous dis que Corneille, c'était un soldat romain, c'était même un centenier, tout de suite, on va le classer quelque part. Hein. Vous avez assez de souvenirs d'école primaire quand vous avez étudié ce que les Romains ont fait à nos misérables Gaulois, hein, et ce qu'ils ont fait subir, les pauvres. On n'a pas de bonnes pensées sur eux, ou peut-être c'est plus récemment que vous avez lu Astérix, et vous vous êtes fait des idées sur les Romains. Mais là, c'est sûr que la première pensée qui vient, ce n'est pas des gens pieux, ce n'est pas des gens qui respectent Dieu, ce n'est pas des gens qui, en tant que chrétien, qui a des pensées pures. On ne peut pas imaginer un centenier chrétien. Hein, déjà, on a du mal à penser qu'un politicien puisse être croyant. Hein, déjà, de nos jours, vu ce qu'on a vu, ce qu'on voit, on a du mal. Mais, vous savez, mais regardez ce que Dieu dit de cet homme. Il nous dit d'abord, c'est un centenier, la cohorte dite italienne, donc il est là et il a une mission, c'est de représenter l'empereur, de défendre les intérêts de l'empereur, et à tout prix, et à n'importe quel prix. Et mais Dieu dit de lui, verset 2, « Car cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Un comme ça, j'aimerais bien. Hein? C'est mieux que même certains croyants que je connais. Hein? Vous rendez compte, ce gars, certainement, j'imagine un petit peu, mais qu'il reçoit la mission de venir là en Israël. Il est là à Césarée, donc un peu sur la côte nord du territoire. Et puis il se dit, bon, il faut que je comprenne ces gens-là, hein, parce que j'ai entendu qu'ils sont vraiment des têtes dures et pas facile à traiter avec eux. Il faut que je comprenne. Et pour les comprendre, il faudrait que j'étudie leur religion, peut-être. Puis il s'est mis à étudier. Et apparemment, il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Il a rencontré un Dieu qu'il ne connaissait pas avant et qui était très, qui l'a beaucoup attiré. Et il a commencé à être un homme qui craint Dieu. C'est Dieu qui le dit, hein, c'est pas les gens qui le disent. C'est pas, donc c'était pas un hypocrite et qui faisait croire qu'il craignait Dieu. Non, non, c'est Dieu qui dit. C'est la révélation. C'est Luc, poussé par l'Esprit de Dieu, écrit Corneille, c'est un homme qui craignait Dieu. Et avec toute sa maison, en plus. Il avait eu un tel témoignage que toute sa maison, et à l'époque, quand on avait une maison, ce n'était pas seulement maman et puis les enfants, mais c'est les serviteurs, c'était tout le monde, le personnel rattaché à la maison, faisait la maison. Et en plus, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prétendait croire, il dit, moi, je crois. Je crois dans mon cœur, c'est au fond de mon cœur, je suis croyant. Non, non, c'était un gars qui pratiquait même. Hein. De nos jours, on a en France, il y a déjà ceux qui ne croient pas. Mais après, parmi les croyants, il y a les croyants non pratiquants et les croyants pratiquants. Corneille, c'est parmi les croyants pratiquants. Et j'imagine que tous les gens, les pauvres surtout de Césarée, était content qu'il était croyant, puisqu'il était généreux et il donnait beaucoup d'aumônes. Mais il nous dit aussi qu'il priait continuellement. Comment être un soldat et prier continuellement? Parce qu'il n'est pas obligé d'être à genoux avec les yeux fermés et les mains jointes pour prier. Prier, c'est d'abord un état. C'est une disposition, c'est un positionnement par rapport à Dieu. Et après, rien n'empêche d'être constamment, puisque la tête ne s'arrête pas, c'est de constamment penser à lui, en toute situation, en toute chose. pas seulement demander, mais aussi de reconnaître son intervention et sa présence. Et il nous dit, cet homme était là continuellement. Et puis, ce qui arrive au verset 3, eh ben, il était en train de prier à 3 heures de l'après-midi. Et quand il a cette vision d'un ange. Vous savez, les premières choses qu'on tire de là, c'est que Dieu voit. Et Dieu voit ce qu'on fait. Parce que l'ange va dire la première chose, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. C'est-à-dire jusque-là, Corneille pratiquait, vivait, priait, sans forcément avoir un retour. Et là, l'ange lui dit, tu sais, Dieu a tout entendu, Dieu a tout vu, et il ne l'oublie pas. Et s'il a fait ça pour un païen, un non-croyant, c'est-à-dire qu'il était croyant religieusement, il était croyant dans le sens Ancien Testament, mais par rapport au Nouveau Testament, Corneille n'est pas encore un enfant de Dieu. Hein, donc c'est un homme, dans la définition de l'Ancien Testament, et c'est un homme croyant. Et même là, Dieu voit tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, et s'en souvient. Combien plus est-ce qu'il le fera pour ses enfants ? Vous savez, parfois on est là, on peut juger, première apparence, on voit quelqu'un, on dit, tu viens d'où, tout de suite, bon, au fur et à mesure qu'il ajoute des mots, nous déjà on commence à le caser, et puis à la fin on le met dans une très petite case, et puis qu'on a envie de fermer à la serrure, hein, peut-être, parfois. Mais, vous savez, Samuel avait été envoyé par Dieu pour aller moindre l'un des fils d'Isaïe, pour remplacer Saül, le roi Saül. Et Isaïe a 7 fils. Et on commence avec le plus grand, l'aîné, je veux dire. Et Samuel, chaque fois, il regarde, il dit, oh, celui-là, il est pas mal, ça ferait un bon roi, là. Et David, Dieu dit, non. Pas lui. Donc, on passe au prochain. Ah, ben lui, oui, ça irait aussi. C'est pas lui. Et chacun passe. Et chaque fois, Samuel se dit, bon, là aussi, il est physiquement, il a une tête intelligente, il a tout ça, bon, ça devrait aller. Et vous savez ce que finalement Dieu dit à Samuel ? C'est dans 1 Samuel 16, verset 7, il dit « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Il dit « Peut-être il est beau, il est grand, il a l'air intelligent, mais c'est pas lui. » Il continue par dire « L'Éternel ne considère pas l'homme tel ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ça pourrait vous arranger ou pas vous arranger, hein, ça c'est votre problème. Mais dit, mais sachez que Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est pas la peine de mettre un masque, c'est pas la peine d'essayer de faire semblant. Il dit parce que Dieu regarde au cœur. Lui, il voit, il ne s'arrête pas à la surface, à la peau, lui va jusqu'au fond du cœur. Et il dit, c'est là que je regarde. Et donc finalement, Samuel, ben, il s'est retrouvé avec le petit jeune. Il a dit, bon, peut-être, premier abord, il est petit jeune. Ben, vous souvenez, hein, Goliath, il l'a méprisé. Il a dit, prenez pour un chien, vous voyez, un petit comme ça, un gamin. Et oui, mais Dieu n'avait pas regardé l'apparence, il a regardé au cœur. Et vous savez, peu importe ce que les gens pensent de votre apparence, et ce que votre apparence peut évoquer chez les gens, Dieu regarde au cœur. Donc ça veut dire que, un, c'est un avantage, parce que si j'ai le cœur droit, si j'ai le cœur purifié, transformé, tout est bon, et ben c'est un avantage. Et si je ne suis pas tout à fait au point, ben c'est là où il faut commencer à travailler. Hein? Plutôt que de passer le temps devant le miroir de verre, c'est de passer devant le miroir de la parole. Hein? Et c'est là où on peut commencer à mettre les choses en ordre. Et puis, mais là, Dieu dit, Corneille, Dieu a vu, Dieu s'est souvenu, et tout ce que tu as fait n'est pas perdu. Et nous voyons dans cet homme ce principe, et c'est un peu, il fait ce qu'il sait faire. Même si pour nous, nous savons maintenant qu'il lui manque quelque chose. Il n'a pas la connaissance de Jésus-Christ. Il ne sait pas que Christ est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité et qu'il est à la gloire à la droite de Dieu. Il ne sait pas encore. Il a besoin de le savoir. Dieu le sait, lui le sait pas. Mais il y a une réalité. Et c'est Jacques qui s'adresse à des chrétiens. Jacques, dans son épître, dit « La foi sans les œuvres est morte. » C'est dit, si tu peux prétendre croire, il dit, bon, le diable, il prétend pas, lui, il croit. Et même les démons, ils savent que Dieu est, et ils tremblent. C'est eux les premiers à réagir. Jésus était dans la salle, eux, ils étaient là, et Jésus arrive, c'est eux les premiers dérangés. Parce que c'est eux qui savaient plus que tous les autres qui il était. Mais il dit, c'est pas une question de ce que tu déclares, c'est une question de ce que tu vis. Alors, il dit, tu n'as pas besoin de me dire, si tu es croyant, ça se verra très vite. Et plus les gens essaient de nous convaincre qu'ils sont croyants, plus j'ai des doutes. Hein? Donc, Dieu a vu cet homme, et Dieu dit, Dieu cherche, veut lui apporter ce qui lui manque. Il y a un principe dans l'Écriture, c'est que celui qui cherche, et c'est Jésus qui l'a dit, l'a répété, l'a confirmé. C'était déjà dit par Moïse, c'était répété par d'autres prophètes. Mais quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Cet homme, eh bien, il a répondu à ce qu'il avait, ce qui était disponible, ce que les Juifs autour de lui lui disaient. Il l'avait cru, il le mettait en pratique, il le faisait du mieux possible. Mais Dieu sait qu'il lui manquait quelque chose, parce qu'il est après la croix, après Pentecôte. Et donc là, il a besoin d'une autre information. Parce que la révélation est progressive. Abraham n'en savait pas autant que Moïse. Abraham était responsable pour ce que lui savait. Moïse était responsable pour ce qu'il savait. David était responsable pour ce qu'il comprenait. Et nous sommes responsables pour tout ce qui nous est révélé jusqu'à maintenant, et donc le texte entier. Et Dieu envoie un ange dire, Corneille, tu sais ta recherche, j'ai remarqué que tu cherches et que tu es sincère. J'ai vu tout ce que tu as fait, tu fais ce qui est dans ton pouvoir, mais bon, ça manque. Et la sincérité ne suffit pas pour sauver. On peut être sincère, on peut faire tout ce qu'on sait faire, c'est déjà pas mal. Hein? Il dit, mais il faut quand même reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et le recevoir dans son cœur, reconnaître son besoin. Il dit, tu me plais tellement. Et je n'ai que des bonnes choses à dire sur toi, mais il te manque quelque chose. Il faut que je t'informe. Et à cette étape-là, il ne peut pas compter sur les apôtres pour lui parler. Eux, ils ne sont pas prêts encore. Dieu lui envoie un ange, comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Dieu lui envoie un ange qui lui parle et qui lui donne. Et l'ange ne peut pas lui dire ce qu'il faut croire. L'ange ne peut pas lui parler de Jésus. Parce que la mission d'évangéliser a été donnée aux hommes, aux apôtres et aux enfants de Dieu, aux croyants. L'ange ne pouvait pas lui donner le message. L'ange pouvait lui donner l'adresse. Il dit, tu vas à Joppé, tu demandes pour un certain Simon Pierre, qui est chez un Simon le corroyeur, donc il travaille avec les cuirs, et donc il était à l'extérieur de la ville parce que ça sentait très mauvais à l'époque. Et donc et il est près de la mer parce qu'il fallait beaucoup d'eau. Il dit, tu vas là-bas, tu vas trouver un certain Simon Pierre, tu demandes, et c'est lui qui te donnera les informations. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que l'ange est en train de parler de Pierre et il dit que Pierre fera une chose qui n'est même pas dans le cœur de Pierre encore. Et il dit, tu envoies, et puis Dieu sait que c'est une journée, hein, donc les gens vont partir le lendemain. Et Dieu se donne 24 heures pour faire un travail dans le cœur de Pierre. Parce qu'il faut, il faut refaire sa pensée. Nous avons tous besoin, hein, qu'il nous dit que le renouvellement de l'intelligence. Hein. Vous savez, quand on vient en face de Dieu, on est sauvé, mais après, il y a toute une autre manière de penser. On revoit tout. Déjà, je me souviens, je crois que je vous en ai déjà parlé de ce Ossine qui était aveugle. Il a perdu toute sa vue, et donc il travaillait dans le noir et avec les souvenirs de ce qu'il avait. Ensuite, ils ont pu améliorer, hein, par une greffe, ils ont pu améliorer un peu sa vue, et donc il commençait à voir, mais voir flou. Tout était flou. Et puis après, ils ont fait encore une greffe. Et tout d'un coup, il voyait beaucoup plus clair. Hein. Et pour eux, pour lui, clair, c'est quand on arrive à du 8%, c'était super. Mais il a dit, j'ai dû arrêter mes études, parce qu'il faisait des études. Il dit, j'ai dû arrêter parce que mon cerveau était en train de tout revoir, refaire toutes les photos, de tout. Parce que c'était, il n'y avait que du flou enregistré. Maintenant, il faut mettre quelque chose de plus, des images qui sont un peu plus mises au point. Et il a dit, j'avais eu mal de tête pendant 15 jours, parce que mon cerveau était en train de travailler, de tout revoir. Tous les poteaux le long de la route, tout le trottoir, tout. On ne s'imagine pas la quantité d'informations qui est là. Il a dit, j'ai dû même demander au professeur de me donner une semaine, parce que je ne pouvais pas supporter, tellement le cerveau était en train de travailler. Il y avait tout à revoir. Et ça, c'est rien que les photos. C'est sûr que les images qu'on a de la vie, de tous les jours. Le renouvellement de l'intelligence. Mais quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit la lumière qui nous éclaire, eh bien, il y a tout à revoir. Pas seulement nos images, parce que ça, on va savoir, c'est du physique. Mais quand ça, c'est de nos pensées sur toutes sortes de sujets, tout est à revoir. Et c'est le renouvellement de l'intelligence. Et là... l'ange envoie Corneille, dit, envoie quelqu'un aller chercher Pierre pour qu'il vous parle et qu'il vous explique ce qui vous manque. Et alors, comme nous l'avons lu, hein, dès qu'à peine l'ange parti, Corneille, ce n'est pas quelqu'un qui perdait son temps, il dit, bon, ben on va y réfléchir, on va voir ça. Non, tout de suite, il appelle deux serviteurs et puis en plus, il trouve un soldat croyant. Puis il dit, voilà, vous allez à telle adresse, tel endroit, et puis vous demandez pour un tel. Voilà ce qui s'est passé, je vous raconte tout. Il avait certainement l'habitude, un chef qui parle à ses serviteurs, qui leur raconte ce qu'il a dans son cœur. C'était quand même, la transformation était extraordinaire, hein, parce que normalement, c'est pas ça. Et il leur raconte tout, et puis il les envoie. Et alors, Dieu doit parler à Pierre maintenant. Et comment il va faire? Vous savez, les anciennes habitudes, on ne les change pas facilement. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'on dit? C'est pas un vieux singe qu'on appelle une nouvelle grimace. Hein, ancienne...
C'est pas un vieux singe qu'on
appelle des grimaces. Ou bien les nouvelles... en tous les cas. Vous avez compris. Si on ne change pas rapidement, quand on a un certain âge, il y a des choses qui ne changent pas rapidement. Et puis, surtout, on n'est même pas disposé à changer. J'ai toujours bien vécu comme ça, ça me va, je ne veux pas changer. Mais là, on arrive, et là, c'est là où on arrive à Pierre. Et Pierre, il n'est même pas conscient de son problème. Il ne se rend pas compte qu'il a tort. Donc, il faut déjà faire un travail dans son cœur pour qu'il se rende compte. Et vous savez, Dieu, dans sa grâce, comment il... Alors que... Et c'est là où... au verset 19. Donc, Pierre va monter sur le toit. Et là, il se mettra à prier. Hein, donc, il nous dit au verset 9, il nous dit « Pierre monta sur le toit vers la sixième heure ». Vers midi, pour prier. Et donc, c'est là où il a cette vision de ce drap, cette nappe qui descend et qui est remplie de toutes sortes d'animaux, des reptiles, des quadrupèdes et ainsi de suite. Et puis, il y a une voix qui lui dit, écoute, Pierre, tu y manges. Il dit, moi, je suis un juif, je n'ai jamais mangé de ces choses-là, je ne touche même pas. Jamais, il a dit, jamais. Et puis la nappe remonte, puis redescend. Mêmes animaux, même ordre, tu les manges. Non. Et puis la troisième fois, ça descend, et la même chose. Et il lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, hein, il dit au verset 15, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et Pierre qui... Et là, vous dites, sa vision, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, en fait, la réalité, c'est que Dieu lui a envoyé une photo de son cœur. Il lui a dit, dans ton cœur, tu as des gens qui, pour toi, sont ces animaux, ces quadrupèdes, ces insectes, et tout ça. Et ils sont impurs, infects, et tu ne vas même pas les toucher. Il dit, il y a plein de monde que tu as dans ton cœur, et tu les vois de cette manière-là. Il dit, mais moi, je ne les vois pas de cette manière-là. Et il faut que tu changes. Si moi, je te dis que je les aime, ben, tu dois les aimer. Si je les déclare purs, tu dois les reconnaître comme purs. Parce que des fois, on a des gens qui sont que le Seigneur sauve de certains milieux, puis on dit, bon, ben, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si c'est possible. Hein? Et c'est ça le problème qu'on a. Et là, il regarde, il dit, Pierre, je te montre ton cœur. Il dit, il ne faut pas que ça soit comme ça. Et Pierre, il est encore là, oui. Vous savez, quand on découvre quelque chose de vraiment quelque chose de nouveau qui nous déçoit dans notre cœur, on se dit, mais qu'est-ce que je fais avec? Et puis juste à ce moment-là, eh bien, on entend sonner la sonnerie en bas. Bon, ce n'était pas comme ça tout à fait, c'était quelqu'un qui criait. Et l'un des serviteurs écrit à haute voix, qu'on entend partout dans la maison, « Simon Pierre, il habite ici ?» Et juste à ce moment-là, l'ange dit à Pierre, il dit, tu sais, ils viennent, c'est pour toi. Tu vas partir avec eux. Il ne sait même pas qui c'est. Heureusement pour lui. Parce que ça se peut que s'il les a vus, il a dit, non, moi, je ne pars pas avec ces gens-là. Parce qu'il y a quand même deux païens plus un soldat, on sait bien ce que c'est. Dieu lui dit, avant qu'il les voit, puis il dit, tu descends, puis tu pars avec eux. Bon. Vous savez, la première chose, qu'est-ce que faisait Pierre quand Dieu lui a montré son cœur? Il priait. Vous savez, c'est tellement important pour nous de prévoir ce temps, chaque jour, où on s'arrête pour avoir ce culte personnel, durant lequel c'est pas seulement nous qui parlons à Dieu, il y en a qui s'arrêtent pour prier. Il dit, ouais, j'ai prié tous les jours. Il n'y a que moi qui parle. Non, il y a un moment où aussi, il faut le donner le temps pour que lui puisse parler. C'est pour ça que quand on prie avec le livre ouvert. Et on lit en vue, non pas pour pouvoir dire « j'ai lu dix versets aujourd'hui », mais on lit en espérant que Dieu va me montrer quelque chose. Ou même en lui demandant, dire « Dieu, j'ai besoin de recevoir quelque chose de ta part ». Et vous savez, quand Job a vraiment compris les choses, il a dit « je ne parle plus ». Alors les chrétiens qui parlent beaucoup, qui ont des longues prières pour le Seigneur et puis qui passent 3 minutes avec la Bible, certainement qu'ils ont des gros problèmes dans leur vie. Ça ne peut pas être bien. Parce que plus on connaît le Seigneur, moins on parle et plus on écoute. Et là, Pierre était en train de prier, il a dit « bon, le repas il est pas prêt, bon, ben, je vais monter prier ». Et puis il profite de ce moment calme et il s'isole, hein. Le Seigneur a dit, mais enferme-toi dans une chambre. Lui s'est mis sur le toit, tout seul. Et c'est là où Dieu va lui parler. Et il y a une synchronisation extraordinaire. Parce que quand il a fini, quand Dieu a fini de lui parler, de dire, bon, il n'a pas encore saisi, il a entendu les paroles, mais il n'a pas encore compris ce que ça veut dire. Eh bien, il descend et puis il trouve des gens qui sont là et qui lui racontent ce qui s'est passé. Il dit donc, tu dois venir avec nous. Bon, quand il y a le soldat, là, on est, hein. Quand le gendarme est là, ben, on suit. Hein. Et donc, il a suivi. Je ne sais pas ce qu'il a pensé pendant tout le chemin, parce que ça, quand même, c'était une journée. Et il marche. Et puis après, il arrive, il débarque chez Corneille, hein, verset 24. Ils arrivent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était là devant lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Si Pierre n'acceptait pas qu'on l'adore quand il était vivant, pourquoi est-ce qu'il accepterait qu'on l'adore maintenant qu'il est mort? Verset 27. « Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. » Corneille, lui, il était prêt, hein. Il a rassemblé tout le monde, il a dit, écoutez, venez, 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 il y a un homme qui va arriver, il va nous expliquer plein de choses. Et verset 28, Pierre, il commence à parler, il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Vous savez, normalement, je ne dois pas être là. Mais il dit, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Il dit, Dieu m'a appris, j'ai pas encore l'habitude, mais dans ma tête, Dieu m'a appris. Verset 29 dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection de venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, et puis là il raconte son expérience. Alors, verset 34, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Ça, c'était une découverte pour lui. Pour nous, on trouve ça assez un peu normal, on dit ben, « bien sûr, c'est... » Non, mais pour lui, c'était une découverte. Hein. Vous savez, Jésus avait dit hein, à son époque, dans Jean chapitre 10, il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amène pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Donc c'était pas nouveau pour le Seigneur, c'était nouveau pour Pierre. Et là, Pierre, ben, il se rend compte que Dieu est en train d'agir. Et la meilleure chose, si Dieu est en train de suivre, tracer un chemin, eh bien, la meilleure chose, c'est de marcher derrière et de le suivre. Hein. Et donc, il parle de Jésus-Christ, il parle du ministère de Jésus et tout cela. Et puis, bien sûr, qu'il arrive à la croix. Hein, au verset 39, il dit « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui avait été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Oui, il a dit, Dieu nous a dit d'adresser au peuple. Nous, on pensait que c'était seulement, et on avait créé une catégorie de peuple, mais c'était bien plus large. Et il dit, tous les prophètes rendent témoignage de lui, le témoignage de lui que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Voilà, il a dit, tout cela pour dire qu'il faut croire en Jésus-Christ. Sa vie de croyant, il était modèle. Mais si tu ne connais pas Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, si tu ne reconnais pas qu'il est mort pour tes péchés, tu ne peux pas te sauver. Parce que maintenant, nous sommes après la croix. Et au verset 44, ces gens, apparemment, ils étaient là, et au fur et à mesure qu'ils parlaient, eux croyaient. Ils recevaient tout ici. Et au verset 44, il dit, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà, le Saint-Esprit descend et les permet de croire et qu'ils deviennent, et ils sont introduits, hein, comme chaque personne qui vient à Christ, le Saint-Esprit intervient et introduit. Le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui croyaient. Et eux sont ajoutés. Verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus, donc juifs, hein, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu la vision sur le toit, que, hein, eux, ils ont seulement accompagné. Et donc, il n'y a pas eu un travail dans leur cœur. Et ils sont un peu, ils sont là, certainement qu'ils étaient gênés, ils restaient dans leur coin, pas trop touchés ici. Et puis, Dieu a dit, il faut que je leur démontre aussi que ces gens sont acceptés. Alors, il dit, ben, je vais les faire subir la même expérience que les Juifs ont eue. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de distinction. Il dit, je vais les faire. Et alors, ils ont cette expérience où ils se mettent à parler en langue, exactement comme les apôtres le jour de Pentecôte. Alors, ces Juifs, ils ne pouvaient pas faire autrement que dire, ben, eux, ils rentrent là-dedans de la même manière que nous, hein. Ils rentrent, ils font partie. Le Saint-Esprit, il ne fait pas de différence. Et c'était, pour eux, c'était révolutionnaire pour eux. Alors que pour Dieu, c'était normal. Et il dit, ben, si Dieu les reçoit, pourquoi est-ce que nous, on doit les rejeter? Ben, à Jérusalem, quand les gens croyaient, on les baptisait. Ben, ici, quand ils croient, remarquez que ça vient après l'avoir cru, quand ils croient, eh ben, on les baptise. Et ils les ont baptisés, certainement ils les ont baptisés, mais tout en se disant, mais qu'est-ce qu'on va raconter à Jérusalem? Et vous lisez le chapitre suivant, vous voyez, ils avaient raison de penser ça. Vous savez, c'est pas toujours, c'est même si le Seigneur fait une œuvre chez moi, ça ne veut pas dire que tout le monde suit ensemble, et ça peut être mal compris parfois. Mais ce qu'on veut voir, c'est que Dieu... Vous voyez cet homme d'une manière. Pierre le voyait autrement, mais il a dû s'aligner sur la vision de Dieu et de le voir comme Dieu le voyait. Et tous ces hommes qui ont accompagné Pierre aussi devaient s'aligner sur la pensée de Dieu. Vous savez, et c'est extraordinaire, et c'est ça qui est merveilleux, mais c'est ça que chacun de nous avons besoin. Et nous avons besoin aussi de subir la même expérience que Pierre, c'est de se placer devant ce drap et se dire, mais est-ce qu'il y a des personnes que je mets là-dedans et que je les représente par des animaux, des reptiles, des... Vous savez, il n'y a rien de plus vilain que des virus, hein, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu les... Vous les voyez comme ça. Vous imaginez, c'est des gens... Et c'est vrai qu'on a tous grandi dans différents milieux où on a grandi, on nous a dit, ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Et surtout si on a eu dans une famille non croyante qui n'était pas prête à recevoir tout le monde ou qui ont d'une certaine religion ou quelque chose, ces gens-là, c'est une secte. Ces gens-là, c'est une autre religion et eux, ils tuent les chrétiens. Ça, c'est une. Et on a toutes sortes d'idées et on élimine du monde. Dieu dit non, n'élimine pas les gens que moi j'ai reçus et pour lesquels je suis mort. Oh, celui-là, je sais. Sont passés, puis ça fait plusieurs fois qu'il sort de prison. Et alors? Vous savez, on a besoin de revoir. Parce que Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de votre bergerie. Mais aussi, il faut que je les amène. Ce qui m'intéresse, c'est pas de remplir ta bergerie, mais ce qui m'intéresse, c'est d'agrandir le troupeau, le seul troupeau pour lequel je suis. Et le troupeau, il ne s'appelle pas Église Baptiste. C'est ça qui est extraordinaire. Hein, j'ai du mal à comprendre. Comme disait, j'écoutais l'autre soir, je me suis réveillé pendant la nuit, puis je ne pouvais pas me rendormir facilement, donc j'ai mis une prédication. Et le pasteur, il disait, il y a une chose que j'ai appris, c'est que Dieu bénit même les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il dit, je ne comprends pas comment il le fait, mais bon, voilà. Et vous savez, nous, parfois, que nos idées, c'est pas exactement. Il fait pas les choses exactement comme moi. Et alors? C'est pas important. C'est pas toi la référence. C'est ce que Dieu pense qui est la référence. En toute chose. Et il faut que ça soit surtout vrai dans l'Église de Jésus-Christ. On connaît le monde. J'en ai vu des choses, vous en avez vu d'autres. On comprend le monde. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est autre chose. Et elle doit être. Nous sommes tous des personnes en voie de transformation. Parfois, c'est plus long chez les uns que chez les autres. Ça dépend des sujets aussi. Mais bon, nous sommes en voie de transformation. Et nous avons besoin de cette transformation. Et ce n'est pas parce que Pierre était apôtre et qu'il avait été celui choisi par Dieu pour porter le message à Jérusalem, qu'il avait tout juste. Lui aussi était en voie de transformation. Même par la suite, il aura des petites discussions avec l'apôtre Paul sur ce même sujet-là. Parce que Pierre, même si dans son cœur, il a compris que tout le monde, mais après, il faut vivre avec les gens autour de soi et puis pas trop les irriter. C'était un jeu d'équilibriste, là, mais. Parce que des fois, les gens, ils ont d'autres pensées et on doit travailler avec eux. Mais, vous savez, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu prend Corneille qui cherche et Dieu le conduit, il trouve. Et lui, il vit ce jour-là, il vit sa Pentecôte. Et Dieu est prêt à tout lui donner, même si c'est un centenier romain. Et Dieu fera des choses, et depuis, Dieu a transformé des vies extraordinaires, des vies qu'on n'aurait jamais imaginées. Il les transforme et en fait des joyaux pour garnir son ciel. Et donc, ma grande question ce matin, c'est est-ce que j'ai des gens dans le drap? Et Dieu dit, si moi je les ai déclarés purs, ils sont purs. Quand ils viennent au Seigneur, est-ce que tu es prêt à le recevoir et à croire à mon œuvre dans leur cœur et transformer leur vie? Et ça, nous devons croire à la puissance de l'Évangile. Il ne demande pas d'être des naïfs et de croire n'importe quoi et de faire confiance à n'importe qui, mais faire confiance à l'œuvre de Dieu et la transformation que Dieu opère. Je peux parler de pas mal de choses. Je ne vais pas le dire parce que c'est enregistré, mais je peux parler de vie transformée. Et Dieu le fait. Et Dieu le reçoit. Plus facilement, lui, il reçoit plus facilement que les chrétiens le reçoivent. Mais faisons l'effort. Déjà, si nous sommes conscients de cette tendance que nous avons, et que nous travaillons dans ce sens, même si ça prend du temps, hein, on a vu ça avec Job, ça a pris un peu de temps. Nous avons vu ça avec Nebuchadnezzar, ça a pris un peu de temps. Pour Pierre, ça prend un peu de temps, mais laissons faire le Seigneur et les choses se feront en temps voulu. Et nous pouvons compter sur lui. Que le Seigneur nous aide et nous conduise. Nous allons prendre quelques moments où chacun peut-être pourra... Peut-être il y a des choses, des personnes ou des choses qui sont venues à l'esprit et des personnes pour qui on aurait du mal même à prier, qui viennent à l'église. Alors, cette personne-là, je ne pourrais jamais l'inviter. Il a trop fait. Mais qu'est-ce que Dieu pense, hein? Et peut-être il y a des pensées qui nous viennent à l'esprit. Et ce qu'on sait, c'est que à moins que ces personnes entendent parler de Jésus-Christ et sa mort sur la croix, eh bien, ils ne peuvent pas être sauvés. Et à cause de mes idées, mes petites pensées, eh bien, je vais les priver du ciel et du pardon de Dieu. C'est un peu criminel, non? Prions.